Docteur Dominique Désiré Irinon, bonjour.
Bonjour Jessica, bonjour à tous les auditeurs de Radio Ntekeluka.
Le projet de loi de finances 2022 n'est pas encore déposé sur la table de l'Assemblée nationale à un mois de la fin de la session budgétaire. Quelle lecture faites-vous de cette situation en tant que constitutionnaliste?
Eh bien, en tant que constitutionnaliste, ce que je peux dire par rapport à ce retard, effectivement, on constate qu'il y a un retard. Et le gouvernement, d'après l'article 82 de la Constitution du 30 mars 2016, aurait dû déposer le projet de loi de finances pour l'année 2022 avant l'ouverture de la seconde session de l'année en cours. C'est-à-dire avant le 1er octobre, le gouvernement aurait dû déposer le projet de loi de finances 2022 et au plus tard le 15 septembre dernier. Et malheureusement, jusqu'à ce jour, ce projet de loi n'a toujours pas été déposé par le gouvernement sur la table du bureau de l'Assemblée nationale pour que la représentation nationale puisse s'en saisir pour l'étudier, etc. et voir ce qu'il y a lieu de faire pour adopter une loi de finances pour notre pays pour l'exercice 2022.
Dans ce cas, quelles sont les conséquences qui en découlent?
Les conséquences, c'est que le gouvernement aujourd'hui n'a qu'une chose à faire avec l'Assemblée nationale. La seule chose à faire, c'est de voter une loi portant 12e provisoire. Et qu'est-ce que c'est qu'une loi portant 12e provisoire? La loi portant 12e provisoire est une loi de finances qui permet à l'État de pouvoir exécuter les dépenses au 12e du budget de l'année 2021. Donc, concrètement, si d'ici la fin de cette session, on n'arrive pas à voter une nouvelle loi de finances pour l'exercice 2022, l'Assemblée nationale sera obligée d'adopter une loi dite des 12e provisoires.
Mais est-ce qu'il y a une différence entre cette loi de 12e provisoire et un projet de loi ordinaire de finances?
Oui, il y a une différence. La différence, c'est quoi? Lorsque une loi des finances classique est adoptée par l'Assemblée nationale, eh bien, elle prévoit les recettes, elle prévoit également les dépenses à faire en ce qui concerne le fonctionnement de l'État et de toutes les institutions de la République pour une année déterminée. Mais pour la loi portant 12e provisoire, eh bien, c'est une loi qui ne prévoit pas des recettes, mais qui donne en fait pouvoir à l'État de façon spéciale d'exécuter les dépenses à un 12e du budget de l'année 2021, par exemple. Et après, il faudrait que très rapidement, le gouvernement puisse trouver les moyens pour qu'on puisse adopter une loi.
Selon vous, est-ce que dans les 45 jours restants au gouvernement, les élus de la nation peuvent adopter un projet de loi en bonne et due forme?
À mon avis, ça sera très difficile parce que, vous savez, une loi de finances, elle est constituée des prévisions pour l'État. Et les prévisions budgétaires, d'abord, quelles sont les prévisions de l'État centrafricain en matière de recettes pour l'année 2022? Jusqu'à combien on peut faire le recouvrement au niveau des douanes, au niveau des impôts pour permettre à l'État d'engager des dépenses? Donc, il y a les prévisions des recettes et il y a également les prévisions des dépenses à effectuer pour l'année 2022. Or, à ce jour, moi, je pense que le retard qu'on a observé dans le dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2022 s'explique par, à mon avis, trois choses. D'abord, un, l'État actuellement fait face à une forte diminution des recettes publiques intérieures. Il y a un faible recouvrement des recettes intérieures au niveau des impôts, au niveau des douanes par l'État centrafricain pour l'année en cours. Ça, c'est d'un. Deux, il y a également une faible mobilisation des ressources sur le plan international. Parce que les recettes publiques sont constituées des recettes intérieures, c'est vrai, impôts, douanes, mais il y a aussi une part des subventions qui viennent de nos partenaires au titre de la coopération bilatérale ou bien au titre de la coopération multilatérale avec le FMI et la Banque mondiale. Et on a constaté, par exemple, que certaines aides budgétaires ont été suspendues pour l'année 2020 et sont même également suspendues pour l'année 2021. Et il y a également la question de la coopération technique avec la Russie dans le domaine des douanes. On sait que ça fait couler beaucoup d'encre. Il faut le dire.
Cette coopération a été déjà suspendue par le gouvernement?
Oui, elle a été suspendue par le gouvernement, mais il semble qu'une autre société est réintervenue pour signer un accord de coopération avec le gouvernement et je pense que ça pose problème au niveau de nos partenaires, notamment ceux du Fonds monétaire international qui envoient souvent des experts du FMI pour venir travailler avec le gouvernement afin d'élaborer ensemble la loi de finances pour l'année 2022.
Docteur Désiré Dominique Irinon, n'est-ce pas la dépendance de la République centrafricaine vis-à-vis de l'aide budgétaire qui vient de l'extérieur qui est à l'origine de cette situation? Parce que certaines informations que nous disposons révèlent que certains partenaires sont sceptiques de financer certaines lignes budgétaires.
Je parlais tout à l'heure là de la coopération technique entre la République centrafricaine, notre pays, et par exemple la Fédération de Russie dans le domaine des douanes. Et je disais que cette coopération a suscité des interrogations, d'abord au niveau de la classe politique et a suscité également de fortes interrogations auprès des partenaires financiers, notamment le FMI, qui, d'après les informations, aurait posé comme condition de la normalisation de ses relations avec le gouvernement gouvernement a posé comme condition que qu'on arrête la coopération avec la Fédération de Russie dans le domaine des douanes. Alors, la dépendance financière de l'État centrafricain ne date pas d'aujourd'hui. Depuis que nous existons en tant qu'État, nous avons toujours tendu la main vers nos partenaires bilatéraux, nos partenaires multilatéraux. Et c'est grâce à l'aide internationale que l'État centrafricain arrive à financer ses activités, à exercer ses tâches régaliennes. Alors, moi, je plaide désormais pour que, à la longue, on puisse travailler pour se sortir un peu de cette dépendance. La dépendance, ce n'est jamais une bonne chose. Vous savez, la question budgétaire, c'est une question de souveraineté. Le budget doit être constitué en principe uniquement des recettes intérieures d'un État pour permettre à l'État de fonctionner. Or, dans la situation de la République centrafricaine de tout temps, eh bien, nous recourons beaucoup plus à l'aide extérieure qu'aux recettes intérieures. Et lorsque la communauté internationale suspend, par exemple, ses aides budgétaires, eh bien, ça met l'État en difficulté.
L'actualité nationale oblige. Que vous inspire cette arrestation de Hassan Bouba, numéro 2 de l'UPC de Ali Darassa?
Eh bien, moi, je pense qu'il s'agit d'un acte judiciaire. L'arrestation du ministre Hassan Bouba, qui est désormais l'ancien ministre de l'élevage, pour moi, c'est une arrestation qui a été faite par la justice.
D'ailleurs, il y a des soupçons qui pèsent sur certains ministres et qui ne sont pas encore arrêtés. Est-ce que c'est une justice des deux poids, deux mesures?
Je ne peux pas conclure à cela. Moi, ce que je relève en tant que juriste, c'est que, eh bien, il y a un ministre qui a été arrêté. Est-ce qu'un ministre en fonction peut être arrêté? Oui, un ministre en fonction peut être arrêté, notamment par la Cour pénale spéciale et par la Cour pénale internationale. N'oubliez pas que l'article 27 du statut de Rome de 2002, portant création de la Cour pénale internationale, dispose que même si on est chef d'État, même si on est président de la République, premier ministre ou ministre, etc., en fonction, eh bien, notre qualité officielle, c'est-à-dire notre fonction officielle, ne peut pas être un frein à l'arrestation de quelqu'un qui est en fonction. Donc, d'un point de vue juridique, eh bien, selon le statut de Rome, quand on est poursuivi pour crime de guerre, et je pense que ce qui est reproché au ministre Hassan Bouba, il est poursuivi pour crime de guerre, donc il doit en répondre. Il ne peut pas mettre en avant son statut de ministre, c'est-à-dire sa qualité officielle, pour dire qu'il ne peut pas être arrêté ou il ne peut pas être jugé. Il peut être arrêté, il peut être jugé d'après l'article 27 du statut de Rome. Et s'agissant des autres personnalités sur lesquelles pèse un certain nombre de soupçons, je pense que c'est à la justice de faire le travail comme elle l'a fait hier en procédant à l'arrestation de Hassan Bouba.
Vous êtes également le président du parti La Marche pour la démocratie et le salut du peuple M2SP. Aujourd'hui, le dialogue est en cours en Centrafrique. Est-ce que vous adhérez à ce processus de dialogue? Quelle lecture faites-vous au retrait toujours de l'opposition démocratique?
Pour moi, le retrait de l'opposition démocratique du processus du dialogue, notamment du comité préparatoire de ce dialogue dit républicain, s'explique par des raisons politiques. Politique pourquoi? Parce que récemment, il y a eu une démarche du président de l'Assemblée nationale qui voulait qu'on puisse voter une loi pour lever l'immunité de 4 élus de la nation. Et ça a suscité un mécontentement dans les rangs de l'opposition. Alors, s'agissant du dialogue, nous, en tant que parti politique, c'est-à-dire Marche pour la démocratie et le salut du peuple, MDSP, un parti qui a été créé en juillet 2021 et dont je suis le président en exercice, nous avons notre vision. Nous pensons qu'aujourd'hui, le dialogue, c'est quelque chose de nécessaire à la société centrafricaine. Il faudrait qu'on aille au dialogue, comme l'a dit le chef de l'État, pour qu'il y ait l'apaisement dans le pays. Il y a trop de tensions dans le pays. Il y a des tensions politiques, il y a des tensions sociales. Et il n'y aura pas d'autre solution que le dialogue pour qu'on puisse avoir l'apaisement dans le pays. Le mandat du président de la République ne fait que commencer. Il a besoin que le pays soit en paix, il a besoin que le pays soit apaisé pour qu'il puisse mettre en œuvre son programme politique sur la base duquel il a été élu par les centrafricains et faire en sorte que notre pays puisse démarrer. Alors, moi, la condition que moi je peux poser en tant que président d'un parti politique, pour participer à ce dialogue, c'est quoi? Je voudrais que ce dialogue soit inclusif. Tout le monde demande l'inclusivité. Mais moi, Dominique Désiré-Hérénon, je vais au-delà. Pourquoi? L'inclusivité, c'est la participation de tous. Ce n'est pas l'inclusivité qui fera en sorte que la crise centrafricaine soit complètement résolue. On est d'accord? L'inclusivité, c'est une des conditions. Mais il y a une autre condition que j'estime majeure. La condition majeure, c'est la franchise lors de ce dialogue. Donc, un, nous demandons l'inclusivité. Il faut que ça soit ouvert à tous les acteurs politiques de notre pays, y compris ceux qui ont pris des armes. Il faudrait qu'on ait l'occasion de leur dire en face que les groupes armés ne sont plus les bienvenus sur le territoire centrafricain, qu'ils ne sont pas des institutions au sens de la Constitution du 30 mars 2016, qu'ils doivent disparaître du paysage politique, qu'ils doivent disparaître du paysage militaire de notre pays. Laissez les institutions, les partis politiques, laissez l'armée en tant qu'institution républicaine faire leur travail et que les groupes armés doivent disparaître. Il faut qu'ils soient là pour qu'on leur tienne ce langage de fermeté. Ça, c'est d'un. De deux, la franchise, après la franchise, il faut qu'on arrive à quoi? Il faut qu'on arrive à la sincérité.
Docteur Dominique Désiré-Hérénon, merci.
C'est moi qui vous remercie et je remercie également les auditeurs de la radio Ndekeluka.